Eh bien oui, Nicolas Sarkozy est président de la République et Jacques chancelle. À bientôt.
Si tu aimes bien Nicolas, claque dans tes doigts. Si tu aimes bien Nicolas, claque dans tes doigts. Si tu aimes bien Nicolas, si tu aimes bien Nicolas, si tu aimes bien Nicolas, claque dans tes doigts. Si tu aimes bien Michel Alliomare, claque dans tes pieds. Si tu aimes bien Michel Alliomare, claque dans tes pieds. Si tu aimes bien Michel Alliomare, si tu aimes bien Michel Alliomare, si tu aimes bien Michel Alliomare, claque dans tes pieds. Si tu aimes bien le nucléaire, roule-toi par terre. Si tu aimes bien le nucléaire, roule-toi par terre. Si tu aimes bien le nucléaire, si tu aimes bien le nucléaire, si tu aimes bien le nucléaire, roule-toi par terre.
Je voulais vous communiquer une déclaration d'Alain Finkielkraut, éminent philosophe, paru dans le Soir, grand quotidien belge de ce mercredi 9 mai. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Alors il est titré « Malgré les incertitudes autour de Sarkozy, je suis soulagé que la haine ait été vaincue ». Alors on ne comprend pas très bien, donc on va voir dans l'article. Fort heureusement, l'amour de la haine a perdu. Donc entendez l'amour de la haine anti-Sarkozy dans lequel vous vous complaisez depuis des mois. Mais fort tristement, il a quand même réuni 46% des voix. Voilà, alors c'est pas fini, accrochez-vous. Face à l'amour de la haine, Sarkozy a défendu et défini la politique comme amour du monde. J'ai été très sensible à cette inflexion. Bon, ben, qu'est-ce qu'il faut entendre, hein ? Voilà. Bon, ben, il y a philosophe et philosophe. Il y en a qui disent le pouvoir nous veut triste et il y en a qui disent l'amour de la haine a perdu. Voilà. Ben, vous êtes dans le beau drap, mais rassurez-vous, en Belgique, Sarkozy est le candidat préféré des Belges. Voilà. Bon courage, je vous embrasse.
Oui, bonjour à toute l'équipe de Daniel, et je m'appelle également Daniel. Et moi, quand j'entends tous ces gens qui sont en train de critiquer Sarkozy avant qu'il ait fait quoi que ce soit, eh bien, ça me fait bien chier. Et je dis à tous ces gauchistes, hein, qu'il va falloir qu'ils aillent bosser, et ça, ça les emmerde. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'il y a 53% des Français qui ont donné une valeur au travail, et j'en suis bien content. Et qu'on laisse Sarkozy un peu tranquille, il a bien mérité les 2 jours et demi de congé qu'il a pris. Et tous ces gens qui n'arrêtent pas de le critiquer, ils feraient bien de balayer devant leur porte avant de venir critiquer un type qui n'a encore pas commencé son activité. Allez, salut.
En écoutant votre boîte vocale hier, je ne regrette vraiment pas d'avoir fait partie des 53% de Français qui ont voté Sarkozy. En effet, c'est aberrant comme les gens soi-disant démocrates peuvent cracher leur haine. Ils sentent le dégoût, le sectarisme, c'est pas possible. Donc je ne regrette absolument pas, je suis très content de mon choix. J'ai voté Sarko parce que j'aime vraiment la France, sans être facho ni nationaliste, évidemment. Voilà, c'est tout. Ah, et puis autre chose, il y a un de vos auditeurs qui souhaite la canicule pour les plus de 65 ans, ça c'est vraiment le... C'est vraiment une injure, c'est une insulte, c'est d'une incorrection, c'est abject. Moi, je tiens à lui dire que il est sûrement jeune, ce type, là, actuellement. Eh bien, c'est un jeune con qui deviendra certainement un vieux connard. Voilà, à bientôt, au revoir.
Ça vous choque que Nicolas Sarkozy ait accepté une invitation sur un yacht ? Eh bien, moi, ce qui me choque depuis des années, c'est voir ces jeunes des banlieues défavorisées habillés de la tête aux pieds avec des marques de luxe. Ça me choque aussi, vous voyez ? Et d'autre part, un petit peu de respect pour les personnes âgées qui ont voté pour Sarkozy, parce que ce sont des citoyens à part entière, autant que les jeunes de 18 ans, avec plus d'expérience. Au revoir.
Ici, Tournai. Les Belges parlent au français. Ce jeudi 10 mai à 19h, au café Les Amis Réunis à la rue Saint-Martin à Tournai, les soldats de l'ombre tournaisiens vous proposent une soirée de maquis. Cette soirée sera relevée par la présence d'une responsable du foyer d'accueil local, l'Étape. Nous comptons sur la présence de nombreux résistants de tout bois.
ça narquoise, ça grince, ça balance, ça queen, ça se fait pas tellement de cadeaux. C'est dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis. Aujourd'hui, on continue toujours, hein, jusque-là ça va, comme disait celui qui tombait du 300e étage. Jusque-là ça va, disait-il en passant devant chaque étage. Alors, aujourd'hui, on continue donc avec le reportage d'Olivia Gesbert, Jamais sans toi, sur la crise de l'immobilier. Crise, pas pour tout le monde. Il y a l'immobilier se porte bien, mais il y a la crise du logement. Comment ces deux choses-là peuvent cohabiter? Ben, c'est avec cette question qu'Olivia est partie en reportage et qu'elle nous a rapporté ce que vous allez entendre aujourd'hui. Jamais sans toi. I don't swim in your toilet. Don't pee on my future. C'était quelques mots relevés comme ça, au hasard, sur un t-shirt lors d'un dans un aéroport à Boston. Nous partirons lundi prochain, non pas pour sur cette question-là, mais sur à la rencontre de Noam Chomsky et compagnie. La série s'appelle Chomsky et compagnie, c'est-à-dire que nous avons rencontré, je vous l'ai dit, cet éminent intellectuel américain, sans doute l'intellectuel le plus populaire au monde aujourd'hui, le moins connu en France. On essaiera de savoir les raisons, il les donnera d'ailleurs au cours de cette semaine d'entretien. Et puis autour de Chomsky, eh bien, un certain nombre d'intellectuels, de chercheurs dans la sensibilité de Chomsky. Je pense que dans la situation que nous vivons, ça peut apporter un précieux grain à moudre à tous. Donc aujourd'hui, Jamais sans toi, et auparavant encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis, I don't swim in a toilet.
Bonjour, Bolloré, mais ça me dit quelque chose. Ah oui, il a été président d'AXA, l'assurance d'où vont se retirer Amnesty International et Handicap International, parce que AXA a de gros capitaux dans des usines d'armement qui fabriquent et vendent des BASM. Vous savez, ces bombes cachées dans l'herbe qui explosent quand les enfants s'amusent ou quand le paysan gratte sa terre, faisant des millions de morts ou handicapés dans le monde entier. Mais je ne crains rien pour Sarko, il n'y a sûrement pas de BASM dans le bateau de Bolloré. C'est Jeannine de Besançon, ma ville qui a sauvé l'honneur de la Franche-Comté avec 53% de Ségolène. Mauvaise note pour les sondages, j'ai plus de 65 ans. Au revoir.
Bolloré a prêté son yacht à Sarkozy. Il dit que dans tous les médias qu'il ne travaille pas pour l'État. Mais c'est faux, il suffit juste de voir que Bolloré est actionnaire majoritaire de Havas et de ses filiales Euro-RSCG, qui est un grand groupe de communication, d'ailleurs le premier en France. Et ce groupe travaille sur des gros budgets de communication, tels que EDF, des grands budgets de ministères, de grandes institutions de l'État, et puis sans compter sa filiale Euro-RSCG CNO, qui travaille pour Areva. Tous ces budgets, et ADS aussi, tous ces budgets font partie de l'État, non? Toutes ces entreprises font partie encore de l'État, non? Est-ce que je sache?
Oui, bonjour Monsieur Mermet, je ne pense pas que vous allez passer mon message comme d'habitude. C'était pour vous signaler que la campagne de Ségolène Royal a été faite par le groupe Euro-RSCG Havas, dont le principal actionnaire et le chef, c'est Vincent Bolloré. Il faudrait peut-être balayer devant sa porte de temps en temps. Merci de passer mon message.
Il y a vous tous la même corde au cou. Si nous serre, si nous serre. Il y a vous la même corde au cou. Si nous serre comme un licou. Il y a de beaux messieurs à l'autre bout. Et vas-y que je te tire, que je te tire. Si nous y mettons tout, ils leur mettront le chou dans les choux. Laissons-nous pas faire. Ouvriers, paysans, sont-y pas frères. Sont-y pas tout. D'autres travaillent, sont-y pas tout.
d'Otavaillou.
Et la France qui se lève déjà tôt.
Et qui seront peut-être derrière les barricades et tous ensemble.
C'est Fabienne et Emmanuel de la Vienne.
Ouais. Salut.
410 euros, 11 mètres carrés, c'est possible de le faire un peu moins cher ou pas?
Non, non, c'est pas possible.
D'accord, c'est pas négociable. Bon, je vous rappelle. Au revoir.
L'immobilier, n'oubliez jamais que c'est le seul endroit accessible où quand on a peu d'argent, on vous prête de l'argent et vous pouvez constituer véritablement un capital et devenir un petit capitaliste.
13 mètres carrés, 530 euros. Idéal étudiant, très bon état, blablabla.
C'est déjà pris, désolé.
On peut avoir un monde de l'immobilier qui marche formidablement bien et une crise du logement tout à fait sérieuse. Les deux sont parfaitement compatibles et je pense qu'on n'est pas loin de ça.
C'est là-bas si j'y suis, Daniel Vermet avec Olivia Gesbert. Jamais sans toi.
Flight number 2. Arriving.
Excusez-moi de vous déranger, je vous appelle à propos de l'annonce parue dans le PAP. Je voulais savoir si c'était toujours en location.
Oui, c'est 30 mètres carrés.
30 mètres carrés, d'accord.
Non, il faut une caution. Personne en plus qui se porte caution pour vous.
Un petit peu quelques portes.
Bon, je vous rappelle. Au revoir.
C'est le jeudi que ça se passe, cette chasse au logement, au loyer pas trop cher, si bien qu'ils ont appelé leur association Jeudi Noir, le Jeudi Noir, où on cherche et puis où on trouve jamais rien. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop cher. La relance de la construction, indéniable depuis 3 ans, ne résout pas le mal logement, car la politique actuelle privilégie une offre trop chère pour la majorité des ménages. Le mal logement, c'est quoi? C'est 1 million de personnes privées de logement personnel, des gens qui vivent dans des centres d'hébergement, 150 000, 200 000 qui vivent dans des abris de fortune, 600 000 qui occupent des chambres d'hôtel, 1 million hébergés chez des tiers dans des conditions difficiles, etc., etc. Si bien qu'au total, on arrive, et il n'y a rien d'exagéré dans ces chiffres, à 3 millions de personnes en France qui sont logées ou mal logés, sans parler de ceux qui consacrent un parti très élevé, de plus en plus élevé de leurs revenus au logement, que ce soit locatif ou en accession à la propriété. Enfin, tous ces problèmes, vous les connaissez, c'est des problèmes quotidiens, c'est des problèmes de tous, que nous connaissons tous, et qui viennent en tout première ligne des préoccupations des Français. En a-t-on parlé tant que ça au cours de cette campagne électorale présidentielle? Pas tant que ça, même si notre nouveau président de la République a apporté une solution, il l'a dit, il va l'apporter. Donc c'est comme si c'était fait, puisque nous allons tous devenir propriétaires si nous ne le sommes déjà. Donc la solution est trouvée, il l'a dit d'une façon ferme, définitive et claire. Alors on va avoir quand même, il y a des bémols, il y a des réponses, il y a même des perplexités face à ces affirmations. On les entendra au cours de cette heure. Et puis on va aller faire un tour aussi dans ce Paris, le bon vieux Paris pittoresque, celui du 11e arrondissement, à Aligre. Et puis on y a une place d'Aligre, que vous connaissez sans doute. Et puis on ira faire un tour à Saint-Maur, où le maire fait de la résistance, refusant les logements sociaux. Un paysage particulier, puisqu'à la fois on a un boom de l'immobilier qui continue, même si on peut connaître quelques infléchissements, en même temps qu'une crise du logement se perpétue dans notre bel hexagone pour quelque temps encore, puisque nous avons choisi la solution et nous en sommes heureux. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, jamais sans toi.
Un jour ça leur a pris l'idée que leur taudis pouvait valoir le prix d'un petit paradis. Et les agents ont dit de monter les prix, qu'il n'y avait pas que de petits profits. Puis les chiffres ont gonflé, et les esprits aussi. Les novices affolés par la flambée des prix se sont tous endettés en se faisant bercer par le discours qui dit que ça ne baissera jamais. Quand elle va péter la bulle immobilière, moi je vous garantis que les banquiers sont pas fiers. Quand il va chuter le prix de la pierre, je serai content d'être resté locataire. Quand elle va péter la bulle immobilière, que les agents seront 10 pieds sous terre, il n'y aura plus qu'à cueillir les affaires. Je serai content d'être resté locataire. À force de décoller, le cours du mètre carré s'est envolé à des niveaux satellisés, vers des cieux étoilés ou même les PDG ne pourront bientôt plus rien acheter. Les loyers ont suivi, quelle triste folie. Pour louer c'est la course à toutes les garanties. Faut déballer sa vie, l'argent de sa famille, montrer le pédigré de l'arrière-grand-père aussi. Quand elle va péter la bulle immobilière, moi je vous garantis que les banquiers seront pas fiers. Quand il va chuter le prix de la pierre, je serai content d'être resté locataire.
Fafa, ce marché il est tricentenaire, hein? Il est bicentenaire.
Vous êtes brocanteur ici?
Moi je suis brocanteur et je m'appelle Léon. J'ai grandi dans le quartier, j'ai eu la chance de grandir ici, sur le faubourg. Ça fait 13 ans que je déballe ici.
Ah ouais, ça fait un bout quand même.
Mais pour revenir à Aligre, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse que la politique de Paris, c'est de virer tous les gens, tout le populo. Heureusement qu'ici, il y a pas mal d'émigrants qui sont propriétaires, qu'on ne peut pas expulser comme ça. Tout ce que tu vois de là, jusqu'à là, c'est 19e. Regarde ça. Comment tu fais quand tu vois ça, cet immeuble avec ses toits parisiens? Et ça, c'est vraiment poétique quand tu regardes ça tous les matins. Tu t'es dans Paris, je veux dire. Et ça aussi, regarde, c'est mignon. C'était un vieux garage et ils sont en train de, je sais pas, tout chambouler. Là, tu passais par la porte en fer et t'avais, tu sais, les ascenseurs aériens où tu montes avec la voiture, les garages aériens. Et ben, ils sont en train de le restaurer. On sait pas ce qu'ils vont en sortir. Tu vois,
t'as
le
béton. Tu peux pas rentrer là derrière la porte ?
Ben, non, tu peux pas rentrer. Mais regarde, tu vois le béton qui monte.
Ouais. Et en fait, il y a de quoi s'inquiéter parce que tu as vu, c'est marqué permis de construire et c'est la Cogedim qui reprend. La Cogedim, c'est un investisseur, c'est les promoteurs immobiliers en fait. C'est eux qui font aussi tous les rachats, les ventes à la découpe.
Tu vois les gens qui ont investi venir faire leur marché, là tu réalises que c'est une autre catégorie de gens. On sent très bien qu'on n'est pas toléré sur la place. On gêne un peu. Ce qu'on génère, c'est de la vie. Et quand tu as des gens qui ont investi un certain paquet d'euros, ils veulent pas qu'en bas de chez eux, il y a du bruit, il y a des bruits de moteur, il y a des gens qui déballent, ils veulent le silence et le calme, quoi. À une période, tu avais plein de clochards qui venaient avec leur caddie et qui vendaient sous l'immeuble. Et les gens, ils aimaient ça. Mais c'est hypocrite. Ils aimaient ça, mais ça les faisait chier de les voir s'engueuler pour un litron ou pour 5 balles, tu vois. Et ils ont écrit, et les flics sont venus, et les clochards, tu vois, t'en as pas.
T'en as plus.
C'est la fin du populo à Paris. C'est un monde de fric et on le voit bien et ça revient à ça.
Voilà, Paris ne sera plus jamais ce qu'il n'a jamais été. On connaît la fameuse formule. Et Léon, comme beaucoup d'autres, pleure sur le Paris qui s'en va, le bon vieux Paris populaire. Ce bon vieux Paris populaire, il est remplacé par ce Paris qui sent bourgeoise, d'abord bobo, puis ensuite plus bohème du tout, simplement bourgeois. On se dit, mais... puisque maintenant on est rentré dans une époque de fric décomplexé, sans honte aucune. On avait voté pour un candidat qui se présentait sur un programme de lutte contre la fracture sociale. Aujourd'hui, plus aucun problème. Cette fracture sociale, elle est là, elle est presque souhaitée, puisque on vient d'élire quelqu'un qui lutte contre l'égalitarisme, dit-il. Donc, il va falloir s'y faire. Vive l'argent roi, vive l'argent, vive les riches, vive cette puissance-là. Mais pourquoi pas, après tout, c'est leur liberté, ils ont de l'argent, ils en profitent. Est-ce que ça se fait au détriment, est-ce que l'enrichissement des uns se fait au détriment des autres? C'est ça la grande question. Eh bien, dans l'immobilier, c'est le cas, puisque on voit ces quartiers de Paris, par exemple à Ligre ou d'autres quartiers, les Halles, le 11e arrondissement, un certain nombre de quartiers qui sont bourgeois, c'est la gentrification de ces quartiers. Eh bien, tant mieux. Chacun est libre d'habiter où il en a envie, selon ses moyens. Sauf que ben, ça fait des pauvres et des modestes qui doivent partir, des vieux, des gens qui n'ont plus les moyens et on arrive à une sorte de, comment on pourrait dire, de purification sociologique, en somme, dans ces quartiers. Donc on voit bien que là, c'est un cas où l'enrichissement des uns se fait au détriment des autres. C'est un exemple, on ne manquera pas d'en trouver d'autres, on essaye toujours d'en trouver d'autres, savoir si, voilà, est-ce qu'il y a un lien ou non entre les uns et les autres de ce genre-là. Voilà une réponse qu'apporte Vincent Renard. Vincent Renard, il est économiste, il est chercheur au CNRS, spécialisé dans les questions foncières, et il voit Paris comme une centrifugeuse sociale.
Vincent Renard, vous êtes économiste au CNRS, expert des questions foncières et immobilières. Et on est aujourd'hui ensemble rue Mouffetard, place de la Contrescarpe. Est-ce que c'est un bon quartier pour commencer à parler de la crise immobilière et de la flambée des prix ?
Excellent, une affaire qui monte, qui montera à long terme. C'est un quartier qui socialement est typique d'un quartier où il y avait une composante petit revenu, petite classe moyenne et qui en 20 ans, si on prend 20 ans, est complètement en cours de transformation et qui maintenant est inaccessible. Je pense qu'on est arrivé à un stade où ça devient vraiment problématique. Je vous rappelle quand même que le prix moyen dans Paris intramuros, c'est de plus de 5000 euros par mètre carré.
Donc fini la mixité sociale à Paris.
Je ne voudrais pas être oiseau de malheur, mais si on extrapole le train actuel, on voit Paris dans 15-20 ans, en effet, une ville musée, des vieux riches, nickel, bien propre, bien entourée de son mur qui est le périphérique. La question, c'est de produire des logements accessibles à toutes les catégories, ce qui est une obligation dans la loi depuis toujours, mais il aura fallu attendre 2007 pour qu'il y ait dans la loi le fait que le droit au logement soit opposable, c'est-à-dire qu'on puisse aller devant un tribunal. En bref, qu'on mette un coup d'arrêt à la centrifugeuse sociale, qui est éthiquement inacceptable et économiquement inefficace. Donc la centrifugeuse sociale font que la ville se structure de plus en plus suivant les revenus des gens. Et qu'à un SMIC et demi, vous êtes prié d'aller voir de plus en plus loin de Paris. C'est ça, la centrifugation sociale.
C'est l'exclusion mécanique d'une partie de la population par le prix.
Le problème, on le repousse. Il se voit moins. Pardon, ce qui est grave, c'est qu'on construise des programmes qui ne trouvent pas preneur et que pendant ce temps-là, les gens qui vivent à un SMIC et demi n'aient absolument pas accès. Donc la question, c'est à qui profite cette hausse des prix. Les catégories qui en profitent, elles sont nombreuses. C'est les propriétaires, c'est 57% des ménages. C'est les collectivités publiques, parce que les impôts rentrent. C'est les constructeurs, c'est les intermédiaires des transactions, les agents immobiliers. Ça fait un paquet de gens. Qui n'est pas content quand les prix augmentent comme ça de façon excessive ? Ben, ceux qui ne sont pas dans le marché, ceux qui sont locataires et qui n'ont pas encore commencé à acheter, ceux-là, c'est les exclus. Tous les autres bénéficient de ce qui est en train de se passer. Donc accessoirement, c'est quand même tous les dominants, si je veux la jouer Bourdieu, enfin c'est toutes les catégories qui se font entendre, les autres se font guère entendre parce qu'ils n'ont pas accès.
Qui, à court terme ou à long terme, n'a pas intérêt à nous sortir de cette crise ?
Les actifs, les banques, les promoteurs, etc., ne perçoivent pas la situation actuelle comme une situation de crise. Vous êtes allé au salon de l'immobilier, vous avez eu le sentiment d'une ambiance de crise ? Non, tout baigne, il y a plus de gens qu'il n'y en a jamais eu. Les gens sont très court-termistes. Et actuellement, le monde de l'immobilier fleurit. Ça va super bien. On peut avoir un monde de l'immobilier qui marche formidablement bien et une crise du logement tout à fait sérieuse. Les deux sont parfaitement compatibles et je pense qu'on n'est pas loin de ça. Il est choquant de lire dans le monde de l'immobilier, dans les mondes de l'immobilier, parce qu'il y a aussi l'immobilier entreprise qui se porte mieux qu'il ne s'est jamais porté, de lire des satisfecits, enfin une ambiance extrêmement agréable, et dans le même temps de lire le rapport de la Fondation Abbé Pierre sur la situation du logement qui est en dégradation permanente en termes d'accès à un logement convenable.
Flowers, boutique de compléments et de vêtements pour enfants.
salon de coiffure Mechas Dog, boulangerie pâtisserie Anne der Kukal, supermarché Drax.
Alors voilà la contradiction soulignée par notre Vincent Renard entre un immobilier où tout baigne, où ça on se frotte les mains, tout marche bien, et puis une crise du logement très sérieuse, et puis ces deux catégories, celle qui sait se faire entendre et celle que l'on n'entend pas. On l'entendra d'ici la fin de cette heure, j'espère, avec justement ceux de la Fondation Abbé Pierre qui ont réalisé cette étude et qui nous donneront quelques précisions. Mais là, pour l'instant, on est au salon de l'immobilier, là où tout baigne. On est à la fin mars et on est avec Manuel, de Jeudi Noir, l'association dont j'ai parlé, et puis Edwige Dudal, droit au logement, association, mouvement bien connu depuis longtemps, qui se balade dans ce salon et font avec notre Olivia quelques rencontres.
Alors Manuel, de Jeudi Noir, ça symbolise quoi, Edwige Dudal, pour vous, ce salon de l'immobilier ?
C'est le salon de l'immobilier cher, en fait. Ça concentre tous les gens qui profitent de cette bulle immobilière, qui se font des marges de plus en plus importantes parce que les prix ont doublé en quelques années. Et ça symbolise un peu l'éviction des gens comme nous, quoi. Des gens qui sont locataires, qui n'ont pas tellement d'argent à investir et qui payent pour tous ces gens-là. Tous ces gens-là, ils vivent grâce à nous, quoi. Grâce au pauvre mec qui paye son loyer à la fin du mois et qui met de plus en plus d'argent dans son loyer. Donc on est venu un peu leur dire, quoi, pour dire aussi à travers ça au pouvoir public que c'est à eux de réguler ce marché pour que les prix cessent de monter. Il n'y a pas de raison que l'immobilier prenne des hausses deux fois, trois fois plus importantes que l'inflation. On est dans le paradis de la FNAIM ici, c'est tout un village. Que des gens qui gagnent plein d'argent. FNAIM, c'est Fédération Nationale des Agents de l'Immobilier, quelque chose comme ça. Et en gros, aujourd'hui, il y a deux fois plus d'agences immobilières à Paris que de boulangeries.
Devenez propriétaire en toute simplicité. Vous n'avez pas le temps, chasseur d'appartements s'engage à trouver le bien dont vous rêvez.
Qu'est-ce qui t'intrigue, chasseur immobilier ?
Chasseur d'appartements.
Chasseur d'appartements.
Ça veut dire quoi exactement, chasseur d'appartements.com ?
Avec un fusil ?
Non, avec le cœur, madame, avec le cœur. Aujourd'hui, on chasse avec le cœur.
Vous avez beaucoup d'appartements avec
votre cœur ? Ah, bonne question. Un nombre suffisant pour contenter notre clientèle. Si vous cherchez quelque chose, vous n'avez pas le temps de le faire, vous avez envie d'être entouré d'une équipe de professionnels, nous sommes là pour vous accompagner dans votre démarche.
C'est un nouveau métier, ça, chasseur d'appartements, ou c'est vieux comme le monde ?
C'est vieux comme le monde outre-Atlantique. Chez nous, ça a 5 ans, 6 ans.
D'accord, mais c'est quoi la différence entre une agence immobilière et un chasseur d'appartements ?
Excellente question, on nous pose très rarement. C'est que nous recherchons, nous n'avons rien à vendre. Une agence vend ce qu'elle a en stock, nous n'avons rien en stock. Nous recherchons pour vous, messieurs, dames.
Et moi, qu'est-ce que j'y gagne à venir vous voir plutôt que d'aller voir l'agence immobilière ?
Alors, niveau coût, c'est à peu près la même chose. Simplement qu'on fait tout le sale boulot de visite d'appartements. On emmène nos clients voir à peu près 5 appartements. Alors, statistiquement, il faut visiter 40 à 50 appartements avant de trouver le bon sur l'Île-de-France.
Et à quel moment vous êtes payé ?
Alors, on est payé de deux manières. En frais de recherche, donc pour couvrir nos déplacements, le temps qu'on y passe, de 300 euros par mois. Et en frais de transaction, de 5% du montant de la vente.
300 euros par mois ?
Et si vous ne trouvez rien, vous remboursez ?
Si on ne trouve rien, on a passé du temps. Donc, ça nous paye ce temps-là.
Vous n'avez rien trouvé ?
Si on n'a rien trouvé, on fait un point toutes les 3 semaines. Et si au bout de 3 semaines, on n'a pas trouvé, notre client est informé que c'est difficile. Soit il décide de continuer sans ouvrir sa recherche et il sait qu'on risque de ne pas aboutir. Soit effectivement, il ouvre un petit peu sur d'autres communes, sur des appartements différents de ce qu'il voulait au début. Et là, on trouve.
Si ça existe en France depuis 5-6 ans, vous faisiez quoi tous les trois avant comme métier ?
De la vente d'automobiles, des services informatiques.
Et de la rénovation immobilière, jeune demoiselle.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers ce secteur de l'immobilier ?
C'est deux choses. Un, une passion pour l'immobilier. Et deux, envie de satisfaire, une envie d'aller plus loin avec nos clients. Voilà, de leur apporter un service, une plus-value.
En fait, la pénurie de logements qui a été entretenue pendant des années a fait en sorte que c'est tellement difficile d'avoir un appartement que tu es obligé de payer des intermédiaires qui eux vont le faire pour toi, etc. Et du coup, tu donnes de plus en plus d'argent, de marge à tout un tas d'intermédiaires. C'est comme le commerce équitable qui essaie de passer par le moins d'intermédiaires possible. Dans le commerce normal, tu as plein de gens comme ça qui se mettent au milieu, qui te prennent une petite marge puisqu'ils te rendent un service, mais qui, en absence de pénurie de logement, n'auraient pas lieu d'être et qui ont un intérêt à ce que la hausse se perpétue.
Vrai et faux. Faux dans le sens où ça ne coûtera pas plus cher qu'en passant par une agence. C'est en ce sens-là que c'est faux. Mais c'est vrai de par le fait de la pénurie. Et donc les intermédiaires apparaissent, des nouveaux métiers apparaissent, et nous sommes là.
Les gens qui vivent de la pénurie.
Voilà.
Alors vous êtes confiant pour l'avenir? Ça va, la pénurie va continuer ou est-ce que...
C'est pas moi qui le dis. Pourquoi les banques investissent maintenant dans les grosses sociétés immobilières? Pourquoi? Il y a 4 raisons majeures. Un, il y a toujours une pénurie de logements en France. Deuxièmement, c'est un marché de croissance. Et 4, c'est un marché qui est récurrent avec tout ce qui est administration de biens. Donc les banques se jettent sur ce marché-là maintenant pour avoir des relais de croissance.
Ouais, d'accord.
Le quatrième, c'est la marge.
Service aux personnes, les bureaux. Et c'est un secteur où il y a toujours une pénurie. 4.
Eh bien écoutez, c'est sympa. Hein.
C'est vrai,
merci. Franchement,
merci.
Grâce à vous, les mal logés, vous continuez à pouvoir galérer.
Ouais.
Là, c'est le son très particulier que fait un immeuble vacant, un immeuble vide, en train d'être aménagé. C'est des espaces immenses, des vieux appartements avec des moulures, des cheminées. Ils sont en train de tout aménager à l'intérieur. On va rejoindre Julien Boucher, qui est membre du collectif Macaque, qui s'occupe de faire la réquisition de logements vides. Et Julien a un souci très particulier, qu'il est un ancien agent immobilier. À savoir que la pierre dans Paris, il la connaît bien, mais il a changé de bord.
Alors ça, c'est un espace qu'on a ouvert il y a à peu près 6 mois. C'est un appartement, un immeuble haussmannien face au parc Monceau qui appartient au président égyptien via une assurance égyptienne nationale. Il était vide depuis 17 ans. Voilà, et on a installé... 5 étages. On a mis 3 étages d'habitation, plus 2 étages polyvalents qui permettent au milieu artistique, associatif, de pouvoir bénéficier de bureaux et de salles de répétition. On va passer au deuxième.
On est dans le 8e arrondissement, place Rio de Janeiro, juste à côté du parc.
Ouais, en face du parc Monceau, oui. Nous, on a toujours privilégié aussi les quartiers un peu bourgeois, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait les contingents d'immeubles vides laissés vacants par des assurances et des banques, des fonds de pension, en grand nombre, quoi. Et c'est vrai que, en plus du cadre général... Salut Pedram.
Enchanté.
Voilà, ça te dérange qu'on fasse une petite visite?
Je vous en prie, moi je suis en train de bosser.
Voilà, ça tombe bien, comme ça on va pouvoir...
Il y a combien de mètres carrés ici?
On estime entre 1400 et 1600 mètres carrés. Voilà. Que du haussmannien comme ça avec mon mur. Je sais pas si tu vois l'atelier dont ils disposent. C'est quelque chose qui resterait vide encore là pendant de nombreuses années. Hein. Ils n'étaient pas du tout pressés de s'en séparer. C'est un actif immobilier qui est immobilisé. Ils font pas d'immobilier, ils font de la finance. Et ça, c'est tout est dans la différence.
C'est qui ils?
C'est les institutionnels.
Font de la finance, pas de l'immobilier.
Ça, c'est les institutionnels. Voilà. C'est tout ce qui est fonds de pension, banque et assurance. Voilà, là, je pense qu'il y a un gros dysfonctionnement. D'une, il prive effectivement la collectivité de mètres carrés, qui aboutit à une hausse inconsidérée des loyers et des baux. Et là, nous, on l'occupe ponctuellement. Au moins, ça permet de sortir un peu de ce schéma-là un certain nombre de personnes, quoi.
On entre comment dans un immeuble comme ça?
C'est très simple, hein. Il n'y a pas de voie de fait. C'est juste, effectivement, on fait un remplacement de serrure assez basique et puis voilà. J'étais agent immobilier pendant 2 ans. Je me suis associé après avec mes anciens patrons sur le montage d'agence, sur de la rénovation. On fait de l'argent facilement, mais de façon assez individuelle et du baratin au quotidien, quoi.
Alors je me permets de te tutoyer parce qu'on a à peu près le même âge, hein, mais toi t'es quand même passé un peu du tout au tout aussi, puisque t'es ce qu'on pourrait appeler un repenti quelque part. Est-ce que t'es passé quand même de ce monde, de ce secteur de l'immobilier où tu achetais, vendais, ou faisais vendre à la réquisition de logements? C'est quoi dans ta tête le point de rupture qui marque cet engagement, ce moment où tu te dis je passe de l'autre côté du miroir?
C'est vrai que j'ai voulu effectivement me trouver un boulot, quoi. C'est vrai que l'immobilier, c'est intéressant, on est en costard cravate, c'est sympa, mais derrière, c'est pas éthique comme boulot, c'est pas quelque chose qui... on a quand même l'impression de d'escroquer les gens quand même assez régulièrement, et ça m'a un peu gêné quand même. Au bout d'un moment, on escroque déjà des acquéreurs, on embobine aussi des vendeurs, après on embobine des collègues, parce que c'est tous les gens sont en compétition dans une agence, à celui qui vend le plus. C'est ça qu'on fait reluire des choses astronomiques à des petits propriétaires, qui veulent absolument acheter pour se mettre à l'abri du besoin. On a ce côté devenir propriétaire est quelque chose qui est devenu complètement considéré dans les conditions de vente et d'achat actuelles. Quoi.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui pour toi pénurie ?
Il y a pénurie parce qu'on a, on a pas tous les appartements sur le marché. Déjà, il y a une vacance de 17%.
Et ça, 17% d'appartements disponibles qui ne sont pas sur le marché.
Voilà. Alors après, il y a
pourquoi ces appartements ne sont pas sur le marché ? On les laisse dormir ?
Mais parce que c'est un bien qui dort. Quelque chose qui est occupé, c'est beaucoup plus difficile à vendre. C'est beaucoup moins cher. Et c'est pour ça que laisser un immeuble vacant, on spécule, on revend 8-10 ans après. Parce que c'est des profits énormes. C'est des profits énormes.
Alors tu me disais, d'après toi, il y a pénurie ? Est-ce que ceux qui en profitent, tu disais les promoteurs, les marchands de biens, certains agents immobiliers, etc., ont intérêt à ce que cette pénurie continue ?
On voit très bien qu'ils ont tout intérêt à continuer dans cette dynamique-là, parce que de toute façon, il y a de la demande.
Quelles solutions pour empêcher ou arrêter la spéculation ?
Solution, c'est une fiscalité beaucoup plus dure contre ceux qui, effectivement, s'engraissent sur la bête. Hein. Construire massivement des logements, c'est clair. Entreprendre une vague de réquisition d'immeubles. Parce que ça débloque tout de suite. Il faut augmenter l'offre, entre guillemets. Il faut obliger les promoteurs à faire un pourcentage assez important dans les programmes immobiliers de logements sociaux, accessibles à tous, enfin au coût social les plus faibles. Il faut qu'ils jouent le jeu aussi pour sortir de cette crise du logement en France. L'immobilier est actuellement créateur de misère, hein, il n'est pas créateur de richesse. Hein. Créateur de richesse pour certains et créateur de misère. C'est vraiment. Il y a deux extrêmes qui cohabitent et il va falloir qu'effectivement. Qu'il y ait un partage des richesses, entre guillemets, un peu plus équitable, là, que les gens jouent un peu le jeu de ce que peut être une société solidaire et qu'on arrête d'écraser son prochain. Quoi. Bon, bah, nous, on ne se résigne pas, on estime que toute personne a le droit à un logement digne, ce qui nous semble un droit fondamental. Quoi.
Un jour ça leur a pris, l'idée que leur taux dit pouvait valoir le prix d'un petit paradis. Et les agents sont dit de monter les prix. Il n'y avait pas que de petits profits. Puis les chiffres ont gonflé, et les esprits aussi. Mais nos vies s'affolaient par la flambée des prix. Se sont tous endettés en se faisant bercer par le discours qui dit que ça ne baissera jamais. Quand elle va péter la bulle immobilière, moi je vous garantis que les banquiers seront pas fiers. Quand il va chuter le prix de la pierre, je serai content d'être resté locataire.
Partage des richesses un peu plus équitable. On ne se résigne pas, on ne se résigne pas. La loi SRU a été votée le 13 décembre 2000, une loi qui fait obligation aux communes de plus de 3500 habitants dans lesquelles les logements sociaux représentent moins de 20% de rattraper leur retard dans un délai de 20 ans. 750 communes sont concernées. Eh bien, les plus bas taux de logements sociaux, c'est Neuilly-sur-Seine, avec 1,34% de logements sociaux, devant le Raincy, dans le 9-3, avec 3,91%, et Chamalières, Puy-de-Dôme, ça vous dit quelque chose, avec 5%. Et puis, il y a également le cas de Saint-Maur, à côté de Paris. Et c'est là que nous sommes avec Olivia Gesbert et Guy Deloche.
Alors, comment est-ce qu'on peut décrire Saint-Maur ? Saint-Maur, c'est quatre stations de RER.
C'est une commune très courtisée par les gens qui ont les moyens. La spéculation immobilière à Saint-Maur est énorme. Là, sur le quartier de la Varenne, on est sur des maisons qui tournent entre 2 à 5 millions d'euros à l'achat. Un studio à Saint-Maur, c'est grosso modo 650 euros. Il faut vraiment avoir un porte-monnaie bien rempli quand même.
Taux de chômage ici à Saint-Maur ?
Très faible, plus faible que la moyenne nationale. La ville de Saint-Maur, c'est 75 000 habitants à peu près, 37 000 foyers, et il y a à peine 1 800 logements sociaux.
Vous disiez le maire a fait signer une pétition à ses habitants. Qu'est-ce qu'il leur demandait dans cette pétition ?
Ah ben, l'abrogation de la loi SRU, purement et simplement. On veut nous imposer du logement social, ça va faire de la densification urbaine. Attention, les tours et les bars. Et dans ces tracts, quand il argumente, il prend des photos de dalles, peut-être la dalle d'Argenteuil ou d'autres, hein, célèbres, pour inciter les habitants à rejeter le logement social comme source de tout ce qu'on peut imaginer dans un fantasme d'habitants qui habitent quand même une grande partie de la commune est en pavillon individuel.
Pas dans mon jardin.
Voilà, pas dans mon jardin. Sauf qu'ils me proposent, moi, des fois, les héberger dans mon appartement. Voilà, c'est un des arguments du maire au conseil municipal. Bon, à Neuilly, il fait un minimum pour ne pas payer ou payer le minimum de pénalité. À Saint-Maur, le maire a budgété, pour le budget 2007, il y a dans les comptes de la mairie, provisionné 1 500 000 euros au titre des pénalités loi et SRU. Alors, d'entrée de jeu, il affiche qu'il ne construira pas.
Mais qui paye ça? Qui paye cette pénalité?
C'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est les habitants, par le biais de leurs impôts. Hein. Donc un habitant qui est mal logé à Saint-Maur a une double peine. Un, il ne trouve pas un logement social adapté éventuellement à ses besoins, sa famille, sa taille de famille. Et deux, il paye un impôt pour ne pas en trouver.
Alors qu'est-ce qu'on voit là, du haut de notre parking? On voit déjà une station RER, la Varenne-Chenevière. La Varenne-Chenevière.
Alors, du haut de ce parking, on domine une zone qui est là, qui fait 6 hectares. Le maire a produit un projet municipal pour faire un parc réservé à la promenade et au pique-nique sur 6 hectares. Alors, pour ce faire, il a acheté les entrepôts Franprix, que la ville a payé plus de 13 millions d'euros. Sur ce terrain de la Varenne, de ces 6 hectares, le préfet a décidé de prendre un arrêté de programme d'intérêt général pour la construction, effectivement, d'équipements publics, mais aussi de logements. Logements pour étudiants et logements sociaux. Et le maire a mené une bataille contre le préfet. Et aujourd'hui, on ne sait pas où ça en est. Et à mon avis, ça va mettre 10 ans avant de voir le moindre logement social sur ce quartier-là.
L'an passé, Saint-Maur a construit combien de logements sociaux?
0.
On avance dans la balade?
Oui.
Bonjour. Je suis avec monsieur qui est conseiller municipal. À Saint-Maur, il me parlait un peu du projet qui doit être construit en face de chez vous.
Il y a le programme d'intérêt général qui a été pris par le préfet, avec la construction d'environ 700 logements. Et là, il y a des discussions entre la commune et le préfet. A priori, le préfet est passé de 700 à 500.
500 logements sociaux, c'est encore beaucoup trop. Vous, ça vous inquiète d'avoir des logements sociaux en face de votre fenêtre?
Ça nous gêne beaucoup. Nous, on aime mieux à quelque chose de pavillonnaire. On n'a pas du tout envie d'avoir des HLM en face de chez nous. Et personne n'a envie à Saint-Maur. Ça, c'est sûr.
Vous les verriez de chez vous, en fait?
Oui, vous voyez, on voit déjà la fac.
Ah, vous êtes un peu haut pour moi.
Hein. Attendez, on les verrait. Ce n'est pas même qu'on les verrait. C'est tout ce que ça engendre.
Qu'est-ce que ça engendre? La racaille de M. Sarkozy. On peut peut-être venir vous rencontrer 2 minutes. Est-ce que je peux monter un étage pour vous entendre un peu mieux, là? Parce que moi aussi, j'ai du mal à entendre. J'entrerai pas chez vous, hein.
Je suis désolé, madame. Je mange.
Ah, vous mangez? Oui, effectivement, vous êtes en train de grignoter avec un verre de vin rouge. Là, vous vous dites, s'il y a des logements sociaux qui sont construits en face, ça risque...
Mais c'est obligé. Regardez déjà comment elle a tagué la fac. C'est nous qui avons été tagués la fac.
Non,
là-bas, il y a une cité HLM. Ils viennent taguer la nuit
c'est
et dîner la nuit.
Entre.
Il y en a là, ça c'est des HLM au bout de la rue, vous allez qu'aller voir. Il n'y en a peut-être pas dans Saint-Maur, mais il y en a plein.
Voilà.
C'est ça, quand vous dites que vous êtes contre le logement social, on vous traite de facho. Ouais.
Le problème c'est d'être tranquille chez soi ou pas. C'est réhabilité, c'est pas réhabilité. Peu de temps après, c'est dégradé, ça c'était propre, c'est sale. On réhabilite, ils dégueulassent derrière. Moi, je les vois tous les jours dans les métros qui sont très propres, ils ont fait les RER. C'est tagué.
La dame nous dit que partout il y a des HLM, il y a des problèmes.
Parce que tout le monde en veut, mais personne ne les veut devant chez eux.
Moi, ça ne me dérangerait pas, au contraire.
Ah bon, bah, écoutez, tant mieux.
Le maire a fait signer une pétition où il explique qu'il ne veut pas appliquer la loi SRU, donc qui impose de créer 20% de logements sociaux. Vous avez suivi toute cette affaire. Je ne sais pas si vous l'avez reçue, la pétition du maire. Vous avez signé la pétition du maire. Mais en échange, du coup, la commune doit quand même payer une pénalité.
Moi, je préfère payer.
Parce que c'est vous, avec vos impôts, qui payez ça.
Bien sûr, avec mes impôts. Mais de toute façon, quand ils vont passer, je vais payer aussi avec mes impôts.
Vous préférez payer pour qu'il n'y ait pas de logements sociaux que payer pour construire du logement social, quoi.
Évidemment. Eux, ils ont tout gratuit. C'est très bien, on leur construit des trucs tout neufs, on les installe dans des jolies banlieues, nous, on paye les impôts, et eux, ils se la coulent douce. Ça, c'est non. Non.
C'est certain.
Au revoir. Alors là, il y a une femme voilée qui vient de passer, et notre ami du premier étage, hein, qui nous parlait tout à l'heure au micro, qui n'appréciait pas vraiment de se faire traiter de fasciste, vient de nous dire quand même qu'il faudrait qu'on aille... Il faudrait qu'on aille parler à cette dame parce qu'on aurait une chance d'avoir une réponse positive.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la lepénisation des esprits. On voit passer une femme voilée dans un quartier bourgeoisement honnête. on stigmatise. Allez voir l'étranger. Le logement social, c'est l'étranger, c'est la racaille, c'est les pauvres. Voilà, les pauvres, simplement. Dans une ville comme Saint-Maur, avec tout le martelage idéologique de Beaumont depuis des années sur la question du logement social, il n'y a même plus de recul d'analyse ou de réflexion. Le pourquoi et comment des choses. Non, c'est non, on n'en veut pas. Il n'y a même plus la réflexion sur la mixité sociale, c'est un non catégorique. Et c'est très symptomatique de Saint-Maur.
Une de vos voisines nous a dit que vous étiez très impliqué donc, contre l'implantation, je crois, de ce projet prévu par la préfecture.
Non, pas particulièrement contre, ni pour.
On peut se voir peut-être, ouais. Je ne veux pas vous déranger, mais je vous entends très mal. Merci.
Bah, de toute façon, la nature n'aime pas le vide. Donc, il faut effectivement quelque chose, mais il faut un projet qui s'intègre bien dans l'univers de la zone pavillonnaire, parce qu'ici, c'est essentiellement des pavillons. Donc, il ne s'agit pas, effectivement, de venir avec des bulldozers tout casser et faire de l'urbanisation à tout va. La densification, personnellement, moi, je ne suis pas favorable. Je ne pense pas être le seul. Hein. Dans le quartier, ça ne sera pas la majorité. Hein.
Là, la mairie n'a pas trop le choix parce qu'il y a un manque de logements sociaux par rapport à la loi SRU. Ça, j'imagine que vous le savez bien aussi. Je pense que c'est ça qui fait que la mairie est obligée de plier devant ce projet.
Oui, mais la France manque d'emplois aussi. On peut aussi construire une petite zone industrielle pour créer des emplois. Hein. Le problème, c'est le prix du foncier. Hein. Tout le monde veut tout de suite. On n'est pas patient. On veut pas faire des économies, on veut que la société, avec un grand S, aide tout le monde. Mais le problème, c'est que c'est pas possible non plus. Ici, ça coûte cher. Quand j'ai acheté ici, moi, ça n'a pas été donné. Hein. J'ai acheté cher. J'ai fait le choix d'acheter cher. Faut être tranquille.
Vous avez peur que les logements sociaux peut-être déprécient un peu la valeur ?
Je n'ai pas dit que les logements sociaux allaient déprécier.
Votre voisine nous disait que vous avez signé la pétition qu'a fait circuler M. le maire sur l'application ou non de la loi SRU. Lui était donc plutôt récalcitrant ou réticent à l'application de cette loi et que vous avez un peu motivé tout le monde aussi dans le quartier à signer. Alors
motivé
pourquoi
tout le monde, c'était pas compliqué. Hein. Quand on multiplie 500 ou 700 par... en gros, bon, il y aura j'imagine qu'il y aura des appartements où il y aura que deux personnes, il y en a d'autres qui ça sera des plus grands, mais... Si on part sur une base de 4 personnes, 4 fois 7, 28, ça vous fait déjà 2800 personnes. Okay. 2008, après vous multipliez 2 voitures par individu. Ouais. Mais s'ils ont des enfants, les enfants vont vouloir une voiture.
4016.
Ça va vite. Hein. Donc ici, comme vous dites, pour le moment, moi j'ai l'impression d'être à la campagne ici. Mais après, ça va devenir roulant. Hein. Ouais. Après, avoir des habitants, c'est bien, mais il faut créer toute une infrastructure. Les écoles, elles sont trop petites, il faut tout dimensionner. Mm. Et tout ça engendre aussi des coûts. Hein.
Maintenant, on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression que c'est parce que il y a un projet avec du logement social qui a un blocage dans le quartier. Je me trompe?
Peut-être que le logement social a une connotation peut-être un petit peu péjorative. Hein. Parce que les gens, quand ils entendent parler de logement social, j'imagine qu'ils voient les émeutes dans les banlieues, ils pensent à ça. Hein.
Pourtant, c'est pas le Bronx, là, ça mort.
Mais ça peut le devenir.
Merci pour cette conversation.
Merci,
c'est
moi.
Dis donc, ils avaient l'air inquiets. Alors, à eux tous, ils vont réussir à bloquer ce projet ?
Non, je crois qu'effectivement, le préfet a décidé de construire un minimum de logements sociaux. Je dis bien un minimum, parce que son projet était de 700, il devient 500 maintenant. Hein. À combien il va se terminer? Voilà. Ça se fera. Je crois que les gens ont du mal à comprendre que le logement social est une nécessité pour tous. Aujourd'hui, c'est vrai que le logement social... Je prenais cet exemple au jour, à une réunion des paroisses où on m'avait invité. Je disais, il y a 30 ans, le logement social, les gens rentraient dans le logement social. Il y avait des policiers, des fonctionnaires, des postiers, des ouvriers, des employés. Et puis, ces gens-là s'installaient dans la vie grâce au logement social. Ensuite, partaient, achetaient un appartement, une maison. C'était le pied à l'étrier. Aujourd'hui, avec le chômage, la précarité, c'est un butoir. On ne peut pas continuer cette politique d'exclusion à sa mort. On ne peut pas continuer cette spéculation immobilière. Ça va éclater à un moment donné. Mais bon, c'est un combat de longue haleine.
Merci, mon ami.
Alors justement, je rencontrais des responsables de la politique locale à Saint-Maur, Saint-Maur-des-Fossés, qui plafonne à 5,3% de logements sociaux, alors que la loi SRU en recommande au moins 20%. Qu'est-ce qu'il faut faire contre ces maires récalcitrants, d'après vous ?
Alors la loi, d'abord, on dit toujours, elle fait obligation aux maires de construire 20%. Alors d'abord,
Vincent Renard. Une obligation.
Le maire qui ne fait rien paye une pénalité. Une chose qui n'est pas dite. Vous savez combien ça se monte la pénalité pour absence de logements sociaux dans le cas d'une commune qui a 3 ou 4% par habitant, c'est de l'ordre de 10 à 15 euros par habitant. Donc quand c'est le prix à payer pour être sûr de ne pas avoir de pauvres, pour dire les choses simplement, c'est dérisoire. Donc supposez que vous fassiez un référendum dans une commune riche sur le thème « Êtes-vous prêt à payer 12 euros par tête pour être sûr de ne pas avoir de HLM ?» Vous faites un tabac, littéralement. Il faut savoir ça. Particularité française par rapport aux pays européens que je connais, c'est l'excès, c'est le pouvoir trop important des maires en matière d'urbanisme. Tous les maires ont gardé le permis de construire. Le permis de construire au niveau communal me paraît une hérésie. Et aucun pays européen, à part l'Italie et dans une certaine mesure la Grèce, n'ont cette arme absolue que garde le maire.
Qui devrait l'avoir, cette arme fatale, le permis de construire ?
Une autorité d'agglomération. C'est à cette échelle-là qu'on peut penser l'urbanisme. Maintenant, à l'intérieur de ça, quelle politique on a, on peut en avoir beaucoup. Mais ne pas mener une politique à cette échelle-là, c'est se condamner à des impuissances locales, au jeu du mistigris. Concrètement, ça fait qu'on ne produit plus, pratiquement plus de HLM dans les zones chères, pour des raisons de prix. Alors quand ceci se cumule avec une volonté politique qui est la volonté des électeurs, eh bien la messe est dite. Le coût social dans notre structure monocommunale, on la passe aux voisins. Et puis même, cette loi, elle est molle, elle est gentille. Vous savez qu'on doit arriver aux 20% dans je ne sais pas combien de temps. Il suffit de construire 2-3 petites opérations pour loger les bonnes portugaises, le personnel de maison. Et puis on se met en règle avec la loi. La loi n'est pas compliquée.
D'ici 2020, je crois, et vous êtes en train de citer l'exemple de Neuilly qui a fait un peu de saupoudrage pour montrer qu'il faisait des efforts, qu'il doit être toujours à 2% de logements sociaux.
Vous dites saupoudrage, mais c'est vous qui le dites, c'est le respect de la loi. La loi, on respecte parfaitement, y compris jusqu'au paiement de la pénalité pour ceux qui ont souhaité ne pas construire de logements sociaux, puisque, disent-ils, nos électeurs n'en veulent pas. C'est ça la démocratie locale au niveau de la commune. Je pense que le cas hollandais est intéressant. En Hollande, par exemple, plus de la moitié des logements dans Amsterdam, Rotterdam, sont des logements sociaux. Logements sociaux ne veut pas dire logements pour pauvres. Ça veut dire que l'essentiel est produit par des mécanismes administrés. Et puis, il y a tout un secteur de marché en dehors de ça. Il y a une forme de civisme du logement qui fait qu'il est parfaitement accepté. Il n'y a pas du tout cette stigmatisation du HLM, tout le monde continue à dire HLM même si ça n'est plus l'appellation officielle, et il y a là un véritable problème, y compris un argument alors qu'on entend beaucoup maintenant, c'est « Ah là là, le HLM va faire baisser le prix de mon bien ». Je crains beaucoup là une évolution comme aux États-Unis, où on fait des procès parce que l'implantation de ceci ou de cela fait baisser le prix de mon bien.
Merci à tous, merci à Vincent Renard pour bien entendre, merci à Manuel du collectif Jeudi Noir, Julien Boucher de Macaque, Edwige Dudal, Guy Deloche, Patrick Doutreling de la Fondation Abbé Pierre, lui, on le retrouvera demain, et puis merci à Léon, le brocanteur d'Aligre. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission de la base où j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, vous pouvez également la réécouter sur labas.org, labas.org. À la technique aujourd'hui, Benjamin Lagatinet et Jean-Noël Vélan, c'est Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry, et c'est Christophe Imbert qui s'occupe du répondeur et qui attend vos messages pour demain vendredi. Il y a toujours plus de messages le vendredi au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.